Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Les nuits de Mélie vont tomber. Les nuits de Mélie vont tomber. Quand les enfants de Maria vont arriver. Les nuits de Mélie vont tomber. La mer de ce Outa va se calmer. La mer de ce Outa va se calmer. Quand les enfants de Maria vont arriver. La mer de ce Outa va se calmer. Les nuits de Mélie vont tomber.
Du mois de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue. Et pour écouter le streaming, c'est rfpp.net. Et ça, on peut nous capter partout dans le monde, y compris à Ceuta, à Melilla, à Madrid ou à Douala. Donc aujourd'hui, ce sera une émission spéciale Ceuta à propos du film qui s'appelle Ceuta 12 prisons. Avec Jonathan Millet, qui est un des réalisateurs du film. Bonjour Jonathan.
Bonjour, bonjour.
Il y a avec nous aussi Sarah Prestiani. Sarah, bonjour Sarah.
Bonjour.
Donc Sarah, toi tu connais bien Ceuta et tu connais encore mieux Melilla, hein, puisque tu as passé pas mal de temps et tu as beaucoup travaillé aussi à Melilla et tu étais sur Migre Europe à Paris pendant très longtemps. C'est même pour ça que tu es souvent venu dans cette émission pour Migre Europe.
Tout à fait.
Et Sekouba qui est là aussi, comme d'habitude. Bonjour Sekouba.
Bonjour Yves.
Donc tu vas nous parler de ce film, hein, Ceuta 12 prisons, que moi j'ai vu, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, parce que d'abord, le film, il est, on en parlait tout à l'heure en antenne, très lumineux pour parler d'un sujet qui est quand même très sombre. Mais je vais te laisser en parler tout de suite.
Alors il est lumineux parce que nos personnages le sont. Mais en soi, le sujet est grave et dur. Moi, je dis Ceuta, j'appuie beaucoup sur le U. J'ai pris l'accent camerounais en passant quelques mois là-bas. Donc Ceuta 12 prisons, qui donc raconte le quotidien, la routine de 5-6 personnages, 6 migrants qui ont traversé la moitié d'un continent. L'un vient d'Inde, l'un vient de Somalie, 3 viennent du Cameroun. Et qui se sont retrouvés, au bout d'un immense périple, enfermés dans cette petite enclave donc de Ceuta, qui appartient à l'Europe, qui est sur le territoire marocain, qui est revendiquée par le Maroc, et qui se trouve être une zone tampon, une zone de non-droit, une espèce de grande prison à ciel ouvert, derrière un immense mur qu'on appelle la Valla, là, avec des barbelés, des miradors, des gardes surarmés, suréquipés. Il y a eu des événements en 2005 qui ont beaucoup fait parler de ce mur, on en reparlera, j'imagine. Et c'est vrai que depuis 2005, on a augmenté considérablement les budgets pour faire de ce mur un mur infranchissable. Ça n'empêche pas les migrants de rentrer à l'intérieur de cette enclave et de se retrouver, en fait, dans une immense ville-prison dans laquelle ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, de combien de temps ils vont y rester. C'est une promesse d'Europe, une fausse Europe. On voit au loin Gibraltar, 14 kilomètres. À la nage, c'est pas beaucoup, c'est un petit bras de mer, mais c'est le détroit de Gibraltar. C'est infaisable à la nage, les courants sont terribles. Et donc, il y a cet appel de l'Europe qui est là, qui est en face, et eux sont condamnés à errer dans Ceuta, sans jamais avoir de nouvelles, et en craignant évidemment la déportation. Ils ont le terme espagnol là-bas, déportation, qui les renverrait vers leur pays.
Voilà, Ceuta qui est tout petit, et il y a des conditions d'enfermement qui sont très particulière et très paradoxale à Ceuta.
Oui, très paradoxale parce qu'il y a donc un grand centre qui est le CETI, donc qui est le centre d'accueil pour les étrangers. Donc, en fait, les migrants mettent un temps assez long à arriver au Maroc, à être autour du mur de Ceuta, et quand ils le sentent, quand ils pensent que c'est le moment, ils font le choc. Donc, ce qu'ils appellent le choc, c'est tout tenter pour arriver à ses fins, c'est abandonner espoir en sa vie, c'est risquer le tout pour le tout, et en l'occurrence, c'est prendre un petit bateau gonflable de piscine, être à 6, à 8 dessus, et se jeter à partir des plages marocaines dans l'eau, au milieu de ses courants, aucun ne sait nager, en se faisant tirer dessus ou jeter des cailloux pointus par les gardes marocains qui essayent de faire couler ce bateau. Et certains arrivent à rejoindre par la mer Ceuta.
Voilà. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on entendra un extrait où une des personnes que tu suis raconte son passage. Et les conditions d'enfermement sont assez particulières. Je crois que ça, tu as aussi beaucoup à dire sur ces conditions d'enfermement dans le CETI, Sarah.
Oui, parce qu'il s'agit d'un enfermement à ciel ouvert, en quelque façon. Les CETI, c'est un centre d'accueil, comme était bien dit par Jonathan, mais ils sont enfermés dans les enclaves mêmes. Et du coup, c'est un enfermement qui n'a pas ni une durée légale de détention. Donc, ils sont enfermés dans l'enclave, mais ils peuvent l'être enfermés pendant des années. Donc, il n'y a pas une loi qui décide, tu passes 5 mois et puis tu sors. C'est l'attente continue, donc l'enfermement à temps indéterminé qui devient une des causes principales pour certains des totales folies et d'attente, d'errance. Et ce sentiment de frustration. Ils sont en Europe, mais pour eux, c'est au Temeyan n'est pas l'Europe, et des faits n'est pas l'Europe parce qu'ils sont bloqués dans un petit territoire comme peut être Ceuta et Melilla. Pour ce qui concerne l'enfermement, en plus, on se rend compte qu'il y a effectivement cette difficulté d'y arriver, mais il y a aussi un risque continu des renvois, des déportations. Quand j'étais à Melilla, qui c'est un peu la sœur jumelle des Ceuta, on avait suivi un groupe de Congolais. Ils avaient ensuite enfin eu l'information du transfert à la péninsule. Ils ont été transférés. Ils se disaient, voilà, tout le monde sait qu'au Congo, il y a quand même une guerre qui est toujours en cours et une instabilité politique. Il n'y a pas un accord qui est signé entre l'Espagne et le Congo. Donc, ils avaient un espoir de pouvoir ressortir du centre de rétention auquel ils étaient transférés après peu de temps. Et dans la nuit, ils étaient en vingtaine. Ils ont été tous rassemblés au centre de rétention de Madrid. Ils ont été amenés à l'aéroport. Ils ont été fortement tabassés parce que justement ils ont essayé de se poser au vol. Et ils sont retrouvés à Kinshasa le lendemain, dans la prison secrète de Kinshasa. Donc, un enfermement qui peut aussi, comme dans beaucoup de cas dans les centres de rétention, amener à la suite qui est l'expulsion au pays d'origine.
Oui, c'est vrai qu'ils parlent tous là-bas d'une torture morale, en fait. Il faut imaginer, donc, Ceuta, c'est une petite ville, il y a 60 000, 70 000 habitants. C'est plutôt une ville de petits vieux, c'est-à-dire que les jeunes sont partis, ils ont rejoint la péninsule, donc c'est des petits vieux espagnols, c'est une espèce de station balnéaire un peu datée, un peu poussiéreuse, et ils se retrouvent, après un parcours incroyable, dans cette ville, où sans explication, ils sont mis dans ce centre, et il n'y a aucune langue en commun. Donc ils sont beaucoup d'Afrique francophone, personne ne parle espagnol, et les Espagnols qui pourraient leur donner des conseils, ou au moins qui pourraient leur raconter quelle va être leur situation, leur temps d'attente, ou les possibilités juridiques qu'ils pourraient avoir, personne n'est apte à lancer le dialogue par manque de langue commune. Donc ils se retrouvent à errer dans cette ville, à regarder passer les jours, les saisons, les mois, et à être dans une attente incroyablement frustrante et traumatisante. Vraiment, pour tous, c'est un trauma total. Cette latence absolue, après avoir parcouru, encore une fois, des déserts, après avoir affronté la mer, après avoir vu leurs amis toujours mourir en chemin, parce qu'il faut le dire, ils sont vraiment peu arrivés à Ceuta, cette latence absolue est terrible à vivre pour eux.
Alors je propose qu'on écoute maintenant Guy qui raconte le CETI. Hein. C'est un extrait du film, hein. J'ai pris quelques petits extraits du film. Alors, il y a beaucoup d'images, il y a assez peu de paroles finalement dans ce film, et justement, ça donne un peu un rythme où on se rend compte, bon, le film il dure 90 minutes, on s'ennuie pas du tout en le regardant surtout, mais on se rend compte qu'il y a ce temps, cette longueur et ce... On attend. Alors tout de suite, hein, donc, on écoute Guy qui raconte le SETI.
Maman, je suis venu dans le pays des Blancs pour me chercher où. C'est pas ma faute si je suis noir. Maman, je suis venu dans le pays des Blancs pour me chercher où. C'est pas ma faute si je suis noir. J'ai l'intention de devenir quelqu'un.
Oui, parce que ici au camp, hein, je te jure, c'est pas comme tu penses. Hein. C'est... Au début, je t'avais expliqué que non, quand tu arrives, il y a des cours, il y a tout qui se passe, mais c'est pas comme tu penses. Hein. Au fil du temps, franchement, je me retrouve. Non, suis-moi, tu ne sais rien. Comment tu sais? Qui t'a dit? Écoute d'abord, parce que, ben, sache déjà que ça va pas ici, ils prennent les gens pour 2 mois, cellule de déportation, ils sont pleins ici qui ne connaissent pas leur sort. Certes, on nous fait bouffer n'importe quoi, mais bon, personne ne connaît son sort ici. Ils nous prennent pour... Il y a ceux qui viennent, ils font 2 mois, il y en a qui ont fait même 3 ans ici au camp, donc sans situation, et puis bon, on te garde comme ça, tu connais pas ta situation, c'est ça le plus dangereux. Un beau matin, tu peux dormir comme ça et puis à 4 ans, on vient te réveiller, Migodam et Takita, et puis on vient te chercher pour la cellule de déportation. C'est ça le problème. Non, c'est ça qui nous dérange le plus. Embrasse ma fille, hein, embrasse ma fille. Et puis moi, j'ai envie de discuter avec elle. Hein.
Voilà, tu peux peut-être... Donc là, c'est Guy qui parle, c'est un extrait du film. Tu peux peut-être nous préciser un petit peu.
Guy fait quelque chose d'assez rare là-bas, c'est qu'il va verbaliser ce qui lui arrive au pays. Donc il est au téléphone avec sa sœur et il a le courage de raconter cet échec qu'il est en train de vivre. Guy, il a mis un an à peu près pour arriver à Ceuta et ils sont peu dans son cas à oser appeler au pays pour dire... Ça fait si longtemps que je suis parti et il se trouve que c'est raté. Je ne suis pas vraiment en Europe, je ne sais pas bien où je suis et l'endroit dans lequel je suis est compliqué. Je ne suis pas sûr de m'en sortir. Et c'est vraiment le seul d'un personnage qui arrive à verbaliser cet échec et ses craintes et ses angoisses. Et Guy était, les quelques mois passés avec lui, était vraiment terrifié à l'idée, donc ce qu'il raconte là, de la déportation, c'est-à-dire que dans le SETI, donc dans le centre, il y a des chambres, ils dorment à 10 par chambre, ce sont des chambres minuscules, à 6h du matin, la police frappe à la porte, demande un nom, donc ce qu'il appelle la tarjeta, c'est la carte en fait d'identification du SETI, il cherche quelques noms sur des critères de nationalité ou d'arrivée, ou des critères plus arbitraires qu'on est bien malaisé de pouvoir définir, et ils embarquent, menottés à 6h du matin, un migrant, plusieurs migrants. Certains vont être envoyés en Espagne pour aller dans les centres de rétention en Espagne où on reste 40 jours avant d'être relâchés, mais également sans papier. Et d'autres, par contre, vont être renvoyés immédiatement dans leur pays.
Ah, et là, ce qu'on écoute, donc, c'est quand on entend Guy, en fait, il est au téléphone avec sa sœur.
Voilà, c'est ça. Il est au téléphone avec sa sœur, qui est au Cameroun.
Le téléphone, c'est presque un 7e personnage dans le film. Hein. On voit toute l'importance du téléphone.
On voit toute l'importance du téléphone et du choix de certains migrants de couper avec leur vie d'avant, parce que c'est trop dur, et qu'il y a un moment où ils... Donc eux, ce qu'ils appellent le concept de l'aventure, c'est quitter son pays, quitter ses attaches, et être dans un état d'entrevie pendant un long moment, pendant le moment de l'aventure, jusqu'à arriver en Europe. C'est vraiment tout abandonner pour réussir, et ne plus craindre autant que possible la mort, c'est-à-dire tout tenter pour arriver en Europe. Et Guy est l'un des rares à garder ses attaches, sa proximité, sa famille et avoir le téléphone. Pour beaucoup d'autres, les rapports au téléphone, c'est plutôt d'appeler des gens qui sont dans l'aventure, c'est-à-dire qui sont au Maroc, qui sont dans la forêt ou qui sont arrivés en Espagne, et essayer d'échanger autant que possible des informations qui permettent d'avancer petit à petit parce qu'on ne leur donne aucune information. Et c'est par exemple en s'échangeant des informations que Marius, dont on va peut-être pouvoir écouter le voyage, a su qu'il fallait donner une autre nationalité, en l'occurrence d'être tchadien alors qu'il est camerounais, pour pouvoir passer à l'étape d'après parce qu'il n'y a pas d'accord d'expulsion entre l'Espagne et le Tchad. Et donc il y a cette idée de communication entre eux qui est assez forte, mais on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup de rapport au pays et à leur vie d'avant, malgré leur utilisation du téléphone.
Oui, moi je crois que ce qui est assez intéressant, c'est cette notion de où ils se trouvent. Est-ce que c'est l'Espagne ou est-ce que ce n'est pas l'Espagne ? Parce que pour la famille, quand tu dis « je suis à Ceuta », ils te disent bah, « c'est bien, tu es arrivé en Espagne ». Donc, comme beaucoup, dans beaucoup de cas des parcours migratoires, il y a un attente d'argent qui arrive, d'un travail et de l'intégration. Concrètement, ils ne sont pas en Espagne. Et puis, il y a tout un questionnement, c'est à niveau juridique, ils sont en Espagne ou pas. Parce que c'est comme dire, quand j'arrive à Marseille, bah, je ne peux pas bouger de Marseille. Donc, juridiquement, ça pourrait être, c'est des faits, quelque chose d'aberrant, mais qui est justifié par les autorités espagnoles du fait que, certes, Ceuta y Melilla sont sous le territoire espagnol et ça ils le revendiquent très très fort, mais ils sont pas dans le territoire Schengen, donc avec cette espèce d'escamotage qui ne tient pas trop la route, il justifie que du moment qu'on arrive à Ceuta y Melilla, on peut bloquer des personnes et pas les transférer. Donc tout ce que c'est la législation en matière d'asile et immigration, ça devient une législation d'exception. Donc il y a tout un questionnement, est-ce qu'ils sont en Espagne ou pas, est-ce qu'ils sont en Europe ou pas. Ce qui est clair, c'est que les gouvernements espagnols jouent beaucoup sur ça pour les garder dans des conditions d'attente, d'errance dans ce petit territoire, mais surtout d'attente à l'infini pendant des années.
Et on peut... oui. Je rebondis juste là-dessus. Eux ont une belle expression, c'est que pour quantifier celui qui est arrivé le premier à Ceuta, c'est « j'ai utilisé le 0034 avant toi », qui veut donc dire « j'ai pu appeler avec le préfixe espagnol au pays ou d'autres avec le 0034 ». Et effectivement, il y a cette semi-réussite du 0034 qui symbolise l'Espagne, et en même temps ils font donc des trajets Isère dans Ceuta, qui est une ville qui est rythmée par les ferries qui partent et qui reviennent de Gibraltar, de l'Espagne, et pour eux c'est évidemment la rupture, c'est l'impossibilité de rentrer dans ce ferry où on, du fait que ce soit pas Schengen, on demande des papiers, un visa pour aller vers Gibraltar.
Voilà. Et tu parlais de Marius qui raconte son voyage. On peut écouter le voyage de Marius. Et puis peut-être après, on écoutera le voyage de Simon. Mais déjà, on écoute le voyage de Marius.
Le voyage a duré 6 mois. Je suis passé par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc. Ensuite, je me suis retrouvé ici. 15 décembre de l'année dernière, je suis monté à Rabat. Et bon, j'ai attendu là-bas peut-être pendant 3 mois parce que j'étais monté en plein hiver et c'était pas évident d'entrer dans l'eau. Parce que entrer dans l'eau en hiver, c'est du suicide. Mes amis et moi, nous avons acheté nos jacks de 370 à 400 kilos. Nous étions 6. Nous sommes allés au point de frappe. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne et l'eau semblait calme. Nous avons attendu 2h du matin, nous avons gonflé notre zodiac, on a porté nos gilets, on s'est débarrassé de nos effets et nous sommes entrés. C'est vrai, quand nous avons mis le zodiac dans l'eau, il y a 2 gardiens qui se sont réveillés. Ils nous ont même jeté des pierres, mais ils ont compris que nous étions déjà loin, ils ne pouvaient rien. Nous avons fait 10 heures dans la mer. On a failli mourir. Parce que ce jour, l'eau était d'abord mauvaise. Donc c'est aux environs de 12h, 30, 13h que nous avons vu apparaître à l'horizon un bateau de la police qui est venu nous récupérer. Donc j'étais trop chanceux parce que j'ai mes frères.
Voilà, c'était donc Marius qui racontait son voyage.
Son voyage et surtout donc ce qu'on appelle le choc, c'est-à-dire après, au moment où ils le sentent, ils vont donc dans la forêt, dans un convoi, c'est-à-dire entre 6 et 10 personnes, où chacun a un rôle assez défini. Il y a une autre forêt, donc près de Melilla, il y a une forêt près de Ceuta. Et pendant une semaine, ils font ce qu'ils appellent du ciblage, donc du repérage, les patrouilles marocaines, à quel moment elles sont là, à quel moment elles sont sur la plage, à quel moment ils font la prière, à quel moment ils dorment, et à quel moment on peut courir pour poser notre petit bateau gonflable de piscine dans l'eau, se mettre dessus entre 6 et 10, pour tenir, là comme il le dit, 10 heures dans la mer avec les courants et essayer avec un peu de chance à un moment d'être recueilli par le bateau de la Croix-Rouge qui donc, quand ils sont dans un état terrible, déshydraté, les récupérer à temps et les amener dans Ceuta pour les faire boire et les sauver, en fait.
Et alors, dans le film, on voit une image avec deux petits bateaux, ou trois petits bateaux qui sont contre un mur, une moto, donc je suppose que c'est une moto de la police,
oui.
Et des rames par terre. Et ce sont ces bateaux-là.
On a filmé, en fait, une récupération par la Croix-Rouge de ces petits bateaux qui avaient chacun entre 6 et 10 migrants. Et ils les ont envoyés directement à l'hôpital. Ils étaient dans un état assez triste. Et on a les bateaux, effectivement, et on montre ce que sont ces bateaux, qui sont vraiment des bateaux de jeu, encore une fois. C'est des bateaux qui s'achètent dans des supermarchés, qui ne sont pas du tout faits pour tenir longtemps en mer, pour aller en mer et pour être autant dessus.
Non, c'est des bateaux de plage comme ceux sur lesquels je jouais quand mes enfants étaient petits pour aller à la plage. Et on disait, faites attention parce que le vent, il peut pousser le bateau.
Oui.
Oui, je crois que c'est assez intéressant l'évolution de cette utilisation des ports, des portes d'entrée de Ceuta et Melilla au cours des années, parce qu'on voit vraiment une évolution dans les temps. On a vu en 2005 où Ceuta et Melilla ont été très connus par les événements tragiques où 20 migrants ont perdu leur vie sous les balles de la police espagnole et marocaine. Et donc, c'était les assauts à la frontière avec des échelles. Et puis, il y a eu la frontière qui est augmentée par les gouvernements espagnols qui payent donc cet renforcement de la frontière. Les migrants, ils commencent à passer par petits bateaux, donc avec un risque beaucoup plus élevé, un nombre mineur. D'autres, ils passent cachés dans les voitures. D'autres encore, ils essayent de payer des prix exorbitants pour pouvoir entrer. Donc, c'est vrai que c'est important de dire que cette utilisation de la voie, entre guillemets, maritime, donc avec ces petits canons, est suite à la fermeture de la voie par saut de la frontière, qui d'ailleurs, dans les derniers mois, a été rouvert à Melilla, où on a vu au moins 600 migrants essayer de passer à main nue, sauter cette frontière à nouveau, pris par le désespoir du fait qu'il y a eu un renforcement des contrôles au Maroc. Mais c'était justement pour dire que cette utilisation avec un risque beaucoup plus élevé des morts, parce que on n'en parle pas dans la presse, parce que mais il y a énormément de morts par cette voie maritime, était poussée par la mise en place des politiques de fermeture des frontières dictates de l'Union européenne, comme on a beaucoup eu l'occasion d'en discuter.
Bon, moi, ce qui m'étonne, ça serait toujours comme ça, parce que c'est une politique qui arrange l'Europe. Bon, sachant bien que l'Europe ne veut pas que, entre guillemets, qu'il soit envahi par des étrangers. Mais moi, la petite question que j'ai, c'est une fois qu'ils arrivent à franchir toutes ces étapes, et une fois arrivés à Ceuta, comment est-ce qu'ils pourraient atteindre... Bon, leur objectif qui est précisément atteindre l'Espagne, comment est-ce qu'ils peuvent arriver là-bas?
Alors, quand ils sont dans Ceuta, ils sont donc pris en charge par le centre, qui est un centre d'accueil pour les migrants et qui est un centre ouvert. C'est vraiment l'enclave entière qui est une prison à ciel ouvert, et dans le centre, ils peuvent dormir. On leur donne assez peu d'informations et donc c'est plutôt par racontards, rumeurs ou par coup de téléphone à ceux qui sont passés qu'ils apprennent ce qui va leur arriver, c'est qu'ils peuvent rester entre un mois et 5 ans. Certains sont restés 5 ans dans l'enclave à attendre des nouvelles. Et qu'il se passe 3 possibilités. Oui. La première, c'est que leur situation leur permet de demander l'asile.
Oui.
Que leur capacité de compréhension de l'espagnol leur permet sur place de faire la demande d'asile, ce qui n'est vraiment pas le cas pour beaucoup. Oui. Et certains auraient des situations qui pourraient les amener à demander l'asile et ils ne le font pas par manque de connaissances, en fait, tout simplement. Oui. Et pour ceux qui ne demandent pas l'asile, 2 possibilités. La première, c'est d'être envoyé en péninsule avec un laissez-passer.
Oui.
Comment sont donnés ces laissez-passer? Encore une fois, c'est assez dur à dire. On a vu donc un de nos personnages, Marius, qu'on a entendu, a son laissez-passer à un moment dans le film. Pourquoi lui et pas Simon qui est arrivé un tout petit peu après, mais ils sont tous les deux tchadiens? On n'a aucune explication et pour avoir interrogé, eu de nombreux témoignages, c'est assez contradictoire et c'est difficile de pouvoir clairement expliciter qui a le laissé passer et qui ne l'a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a vraiment très très peu.
C'est comme une loterie, quoi.
C'est un peu comme une loterie, sauf que le laissé passer, entendons-nous bien, c'est juste le droit de prendre le ferry pour aller de l'autre côté en Espagne, être de nouveau dans un centre, toujours être sans papier et vivre dans des conditions déplorables en Espagne en n'ayant pas le droit de travailler. Ceux qui n'ont pas le laissé passer et qui n'ont pas demandé l'asile, ils sont envoyés en Espagne en centre de déportation. C'est ainsi que eux l'appellent. Vraiment, tout le principe du film, c'est de ne pas donner d'informations supplémentaires que ce que les migrants ont. On voulait vraiment plonger le spectateur en immersion dans la vie de ces migrants qui ont très peu d'informations et de notions sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils vont vivre et ce qui va leur arriver. Oui. Et c'est pour ça qu'à chaque projection, on veut vraiment qu'après le film, on puisse débattre et ouvrir un peu le dialogue. Oui. Et donc, ceux qui sont envoyés en centre de déportation, et je maintiens bien que c'est une expression qu'ils sont eux, c'est que pendant 40 jours, ils vont être dans un centre en Espagne où un ambassadeur d'un pays africain va les reconnaître en tant que Camerounais, en tant que Maliens, en tant que Burkinabé, en tant que Nigérian. Et s'ils sont reconnus d'une certaine nationalité par un ambassadeur, ils sont immédiatement renvoyés dans leur pays.
C'est exactement le système des centres de rétention en France. Alors, il y a ce manque d'information, et cette information, c'est très bien illustré. Alors, j'ai pas pris cet extrait du film parce qu'il est en anglais et que les sous-titres, ça passe pas à la radio, mais où il y a Iqbal, qui est un jeune Indien, donc qui a tout juste 18 ans, qui est tout à fait quelqu'un qu'il faudrait materner, quoi.
Iqbal, c'est vraiment une histoire incroyable. Il est parti à 16 ans de son pays. Il a mis 2 ans trimballé par des passeurs dans des bateaux tout au long de l'Afrique. Il a mis 2 ans pour arriver à Ceuta sans jamais avoir aucune nouvelle de l'endroit où il allait. Il s'est fait extorquer parce que ses parents avaient payé cher pour l'envoyer en Europe. Et il se retrouve donc dans cette fausse Europe qui est Ceuta. Et son voyage a duré 2 ans. Il arrive à 18 ans et on l'a commencé à le filmer au bout de 10 jours à Ceuta. Il comprend parce qu'il est dynamique. Il a vraiment envie de comprendre son nouvel environnement et les enjeux de l'endroit où il est. Et il comprend petit à petit la dureté de l'endroit dans lequel il va passer.
Voilà. Et là, il y a toute une discussion à propos de la demande d'asile avec Iqbal. Bon, cette discussion est en anglais, mais rassurez-vous, elle est sous-titrée. Et là, on comprend bien la chose.
Et on comprend que c'est difficile, que c'est vraiment un vrai parcours du combattant pour avoir la motivation d'aller jusqu'au bout de cette demande d'asile parce que la plupart des migrants sont totalement abattus par ce qu'ils vivent, par cet état de latence absolue. Et beaucoup n'ont plus la force d'essayer de gagner quelques pièces en travaillant près des voitures, de pouvoir téléphoner, de discuter avec d'autres migrants. Et ils sont vraiment abattus dans un état d'échéance morale et donc physique très dur. Et voilà, c'est ce qu'ils appellent, eux, la torture morale, mais c'est dur à voir et c'est vraiment une façon très dure de les abattre. C'est vraiment, ça touche leur corps, clairement, physiquement.
Et moi, je pense que c'est intéressant parce que finalement, ça, ce n'est qu'une stratégie du gouvernement espagnol qui suit un peu la ligne des politiques européennes. Parce que finalement, si on voit un peu toujours dans l'évolution, je pense qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En 2005, les migrants qui arrivaient, ils étaient très rapidement transférés à la péninsule. Donc finalement, l'effet de bloquer des migrants pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça devient un effet déterrant. C'est la même politique, par exemple, à Malte, à l'arrivée enfermée pendant 18 mois. C'est vraiment la politique de la déterrance. Comme ça, tu sais, la prochaine fois, tu viens pas, tu dis aux autres que tu as passé 3 ans, 4 ans. Donc, une politique de la déterrance, une politique de gestion de l'immigration qui crée des effets complètement néfastes, justement, notamment dans l'état psychologique de ces migrants, et puis qui crée un état d'exception de l'asile. Ce que je disais avant, c'est vrai, dans le sens qu'on se trouve dans une ville espagnole qui est Ceuta, où le statut de demandeur d'asile a une valeur complètement différente d'avoir un statut de demandeur d'asile à Murcia. Et pourtant, les deux sont des villes espagnoles, mais dans une, la procédure d'asile dure des années, et dans l'autre, dure beaucoup moins. Et puis, dans une, c'est une espèce de confinement dans la ville. Tant que dans l'autre, on peut aller où on veut, au moins dans un territoire espagnol. Donc, c'est vraiment cet état d'exception qui viole des conventions internationales et des principes internationaux du défense des demandeurs d'asile et en général de l'homme. Parce que je pense qu'il y a un détruisement de l'être humain qui doit être vraiment dénoncé fortement.
Là, l'idée espagnole, c'est vraiment, enfin l'idée européenne même, c'est d'externaliser au maximum les frontières. Moi, c'est en travaillant sur les frontières que je suis arrivé sur cette question donc de Ceuta, qui est une espèce de zone de non-droit, un peu tampon entre deux frontières. Et c'est repousser au maximum la frontière européenne, c'est-à-dire la frontière nord-sud, sur le territoire marocain, pour rendre aussi difficile que possible l'accès aux migrants, et donc faire peur, ne pas créer d'appel d'air, Mais ce que ça a donné, c'est qu'il y a toujours autant de migration, juste les chemins sont plus durs et plus mortels pour la plupart des migrants. Et ça n'endigue en aucun cas la migration, ça rend juste le parcours plus difficile pour la plupart de ces migrants.
Alors, je propose qu'on écoute maintenant et enchaîner le voyage de Simon et Jean-Claude. Jean-Claude qui raconte le mur et la traversée.
Hein, trop chanceux, c'est... parce que j'ai mes frères qui font les 2 ans, les 9 mois, mais moi je fais 3 mois, je suis entré en Espagne. Même comme ça n'a pas été facile du tout. J'ai surtout risqué ma vie au Niger, au désert. J'ai choqué, j'ai fait 2 refoulements et la troisième fois, Dieu a posé sa main sur ma tête et je suis entré. J'ai les moments de doute tous les jours parce que depuis un bout de temps, je vois la police vient tous les matins. On vient ramasser les gars ici avec étant minotés, on les amène, on libère d'autres, on les jette dans les pays. Vraiment, c'est ça qui me fait peur, quoi. Je me demande vraiment si ceux qui sont passés ont vécu la même chose que nous sommes en train de vivre.
Si je vois l'Europe en face de moi, il faut bien que j'entre.
Quand tu es arrivé, tu es monté sur les collines, tu as vu directement
quand
l'Espagne.
Oh, que c'est beau. J'arrive, on me dit.
Tu vas à l'Espagne directement.
Voilà l'Espagne.
Quand tu montes sur les montagnes là, tout en haut, tu vois l'Espagne, comment ça brille.
On me dit, enfin. On me dit, quand j'arrive à Benissa, il y a une colline là-bas qu'on appelle Gorogo. Mm-hmm. On me dit, grimpe la colline de Gorogo, tu brises un peu l'Espagne. C'est tout beau parce que les lumières du Maroc sont des bougies en face
des lumières européennes.
Espagnoles.
Ouais. Oui, on dirait l'enfer et le paradis.
Ce sont des bougies.
Les douanes, comme les gens
c'est
disent.
C'est bizarre, il y a juste que 3 barrières.
Quand on me dit, ok,
qui sépare.
Parce que je suis nouveau, on me dit, voilà l'Espagne.
Du coup, tu as envie d'aller.
Du sommet de la colline, j'ai du coup envie de plonger et de m'envoler, de me retrouver en Espagne. Sans savoir que c'est l'enfer. Je dors sur la colline. Le lendemain, je prends mon ami, les gars, enfin un ancien du coin. Il me dit, allons, viens, on va aller cibler. Il dit, ok. Je dis, ok, je suis prêt, je suis là pour ça. Il me dit, ok, alors on va aller cibler. Il dit, fais-moi voir la barrière de près. J'arrive. J'arrive à peut-être à une 20aine de mètres, 30aine de mètres, parce qu'il est très difficile d'approcher la barrière. 10 mètres.
Il y avait des alites et tout.
Oui. Si tu atteins déjà 10 mètres de la barrière.
Il y a des alites qui sont dans les plots.
Si tu as 10 mètres de la barrière, tu as des chances de pénétrer. Donc j'arrive, on est à près de 30-40 mètres. On nous repère. Ça a été une chasse à l'homme.
On a couru ce jour comme des malades.
On a couru.
Combien fallait se casser la jambe.
Oui, tu cours, on te suit plus, mais tu cours quand même parce que tu as peur quand
tu. Qu'on puisse te rattraper.
Oui, et là je n'avais encore.
Et quand on te rattrape, il faut dire quand tu attrapes, on te bat comme un animal.
Je me suis approché à une 30aine de mètres et j'ai vu cette barrière. J'ai dit, cette barrière-ci, est-ce qu'on peut vraiment la traverser? Est-ce qu'on peut vraiment la franchir? Ayant fait tout ce trajet, parce que tu quittes d'un pays à un autre, tu traverses des frontières, tu dors dehors, tu. Ok, si je pourrais vraiment franchir cette muraille, je demande à mes amis qui étaient anciens, que, en dehors de la barrière, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour entrer en Espagne? Il me dit, oh oui, il y a la nage. La nage? Moi, je ne suis pas nageur, je ne sais pas nager. Il me dit, il y a la nage, il y a le jack. Moi, pratiquement, j'ai fait 10 refoulements. Au bout de 10 refoulements, j'étais épuisé. On organise un autre convoi. On dit, oui, de 8 personnes.
Aïe.
On dit, ok, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, bon, on entre en Europe.
C'est comme ça que vous êtes entré en Europe.
C'est comme ça qu'on
a. Il faut préciser qu'on a fait un jeûne de 3 jours.
Oui, on a fait un jeûne de 3 jours. On a pris
jeûne prière.
Oui, prière.
On dit Dieu, c'était trop. Trop de souffrance. Non, nous sommes quand même ta créature. Oui. Seigneur, ouvre-nous la porte.
Et c'est comme ça qu'on
débarque en petite forêt.
Dieu m'a mis dans un convoi avec des gens vaillants. Il m'a mis dans un convoi avec des gens vaillants qui a permis à ce que mon rêve se réalise. Mais quand j'arrive en Espagne, je me rends compte que c'est pas en fait ça.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et en streaming sur rfpp.net, ça partout dans le monde. Et nous sommes en train de parler donc avec Jonathan Millet, qui est réalisateur, Sarah Prestiani, photographe, Migro-Europe, et qui connaît très bien Melilla, et Sekouba, donc du film hein, qui s'appelle Ceuta, 12 prisons. Et donc là, on vient d'écouter...
J.C.,
oui. Hein, qui parle de sa traversée.
Ouais, qui parle de sa traversée, mais surtout qui raconte aussi sa confrontation au mur, à la barrière, et qui raconte donc qu'il est en train de se demander si après tout ce chemin parcouru, se retrouver face à une telle barrière, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Est-ce que ça valait le coup de risquer sa vie, de quitter son pays, de tout tenter pour être confronté à une immense barrière et de cette espèce de peur visuelle et très forte ? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment plus aucun migrant ne franchit la barrière. Il y a donc eu en 2005 une vraie grande mise en lumière de Ceuta, quand des dizaines, des centaines même de migrants, pour la plupart d'Afrique francophone, camerounais beaucoup, étaient dans la prison, dans la forêt autour de Ceuta, et se sont dit « on n'arrivera jamais à rentrer, c'est trop dangereux, peut-être qu'on n'a qu'à tous partir en courant en même temps ». Et même s'ils nous tirent dessus, il y en a bien qui parviendront à grimper au-dessus de ces barbelés, de ces fils électrifiés, de ces miradors. Et donc c'est ce qui est arrivé, 29 septembre 2005, des centaines de migrants, au milieu de la nuit, partent en courant. Certains se font tirer dessus, certains restent dans les barbelés. On parle de 15 morts, mais c'est vraiment très dur à réellement dénombrer. Le chiffre est un peu incertain. Ce qui est sûr, c'est que c'était terrible, c'est un vrai carnage, et que c'est l'une des rares fois qu'on parle dans les journaux télévisés, médiatiquement, de Ceuta et de Melilla également, qui, en dehors de ça, sont vraiment éloignés de toute réflexion journalistique. Et donc, après cette idée où vraiment il reste du sang sur le barbelé, pour aller loin dans l'image, la plupart des migrants se sont dit qu'il fallait plus passer par le mur, que c'était trop dur, et il faut savoir que le budget de l'Union européenne a été triplé pour, autant que possible, rendre ce mur encore plus inaccessible par de nombreux moyens. Et maintenant, il passe par l'eau. Mais vraiment, Christian, et on le voit dans le film, on voit sa figure quand il raconte sa confrontation au mur, c'est quelque chose d'assez terrible. Nous, en fait, on a commencé à écrire ce documentaire au moment de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et on lisait un petit peu partout, dans la plupart des journaux, qu'est-ce que c'était absurde à l'époque d'avoir un mur. Vous imaginez, on était tellement arriérés, c'est fou de construire un mur, et c'est vraiment barbare. Et il suffit de creuser un peu le sujet pour se rendre compte qu'il y a encore des murs en Europe, qu'il y a des murs qui ont vocation à rester, qu'on finance de plus en plus, et qui ont toujours qui sont des murs meurtriers, en l'occurrence, suite Ceuta, et qu'on n'a pas fini avec nos travers et cette histoire de murs qui sont donc des histoires de frontières mal réglées, de frontières qu'on ne veut pas poreuses, de frontières qu'on fait évoluer loin de nous. Donc c'est Frontex, encore une fois, une façon de fermer autant que possible l'Europe, et donc entre le nord et le sud. Et vraiment, cette histoire de mur, on le voit assez peu dans le film parce qu'il est dissimulé, mais sa présence est réelle et on le sent à chaque instant.
C'est ce que j'allais dire, c'est que ce mur, il est présent en permanence dans le film, et on a, et ça éclaire bien quand tu disais tout à l'heure qu'on essaie d'avoir le plus possible la vision du migrant, la vision de la personne qui passe par là. C'est-à-dire que le mur, finalement, il le voit assez peu, mais le mur, il est omniprésent puisqu'il empêche de passer.
Il leur pèse, le mur, il est sur leur tête. Nous, vraiment, c'est un film où on suit 5 migrants dans une petite ville, balnéaire, vraiment, encore une fois, une jolie ville, il fait beau, il y a la mer, mais c'est une vie carcérale. Et nos 5 personnages, quelle que soit leur activité, même s'ils marchent sur la plus jolie plage de Ceuta, ce mur leur pèse.
Et pour filmer une prison, on n'a pas besoin de filmer les murs. Pourtant, on le filme quand même un petit peu. Et toi, tu l'as abondamment photographié, ce mur.
Oui, mais... Effectivement, c'était possible de les photographier, notamment la dernière fois, j'ai pu les photographier en mars, mais c'est pas au hasard que c'était en mars. Je suis sûre que c'est maintenant. Je demanderai l'autorisation de les photographier, on me la nierait, mais dirait que non, pour un simple motif, parce que justement, on était dans une phase où les migrants, ils avaient décidé de plus sauter cette mur. Cette mur était encore plus haut des camps, ils l'ont sauté en 2005. Mais à Melilla, la situation était autant dure et difficile au Maroc, les rafles s'est multipliées, les déportations dans les déserts vers l'Algérie étaient pratiquement quotidiennes, les quartiers des migrants arabes Rabat était de plus en plus contrôlé. Il y a eu une montée des migrants qui vivaient au Maroc vers notamment Melilla, vers ces fameuses forêts, et il y a eu des assauts. Il y a eu des assauts beaucoup moins massifs, tels qu'ils ont été définis en 2005. Il y a eu des tentatives de passage en juin 2012, donc il y a très peu de temps. Et puis, c'était la nuit du 18 août, c'était la nuit du fin Ramadan, et les migrants qui passaient des jours et des jours dans la forêt, ils ont décidé que peut-être c'était la bonne nuit, que peut-être les militaires marocains, ils fêtaient aussi Ramadan, donc c'était un moment de désintention, et donc ils sont partis en 350. Ils ont à la main essayé de franchir cette frontière qui n'était plus une seule frontière, mais était devenue trois frontières entre-temps, parce qu'entre 2005 et 2012, du coup, dans les temps, ils ont renforcé cette frontière, donc est devenue trois barrières. Il y a des câbles qui sont tous les longs de cette frontière, et ils ont réussi à arriver qu'un très peu, parce que ceux qui sont réussi à arriver en territoire espagnol et qui ont été pris par la police espagnole ont été refoulés au Maroc. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans les récits qu'on vient d'écouter, ces jeunes migrants, ils disent j'étais refoulé 10 fois. Alors refoulé, ça veut dire un fois que t'es sur le territoire espagnol, tu es pris et tu es renvoyé du coup côté du Maroc. Refouler un migrant, c'est donc en violation des droits internationaux, à commencer du droit d'asile, de la Convention de Genève, qui dit qu'il y a vraiment un principe des non-refoulements des demandeurs d'asile. Donc, si on refoule 5 minutes après l'arrivée à Melilla, on ne peut pas savoir, ou à Ceuta d'ailleurs, on ne peut pas savoir si ces migrants sont un demandeur d'asile ou pas. Donc, en clair, violation des droits internationaux. Et c'est assez intéressant comment, pour les migrants, c'est devenu tout à fait naturel. Donc, ces jeunes migrants, ils disent, ont été refoulés 10 fois. Donc, pendant 10 fois, la Guardia Civile espagnole, le gouvernement espagnol, a violé la Convention de Genève. Ça, quand tout le monde le sait, mais personne ose ou veut le dénoncer ou est intéressé à le dénoncer. Donc, là aussi, il y a eu plein refoulement. Apparemment, en tout, il y a eu au moins 600 migrants qui ont essayé ces sauts dans les derniers mois, il y a 15-50 qu'ils ont pu rejoindre. Les autres, soit ils ont été bloqués par l'autorité marocaine, soit ont été refoulés par la garde civile. Donc voilà, c'est juste pour contextualiser que cette mur qui est effectivement un mur qui paraîtrait insurmontable a été surmonté. Ce qui l'a poussé, c'était les espoirs du mauvais traitement, des conditions tragiques qui vivaient au Maroc.
Et il faut savoir, pour remonter là-dessus, que leur voyage n'est qu'une succession de refoulements. C'est-à-dire que là, c'est le dernier refoulement possible. Mais avant ça, au Maroc, il y a plein de moyens de se faire arrêter lors de rafles. Et ils sont refoulés à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Quand ils se font attraper en Algérie, ils sont refoulés dans le désert au Mali. Et chaque refoulement veut dire retraverser avec rien, les mains dans les poches et une paire de tongs un peu usées, l'ensemble du pays pour courir le risque de se refaire refouler. Et c'est vrai que quand on entend les récits qui sont incroyables, ils ont vécu plein de vies durant chaque récit de voyage, c'est une succession de refoulements, et chaque refoulement signifie retraverser à pied sans moyens et risquer sa vie un peu à chaque fois, un pays entier.
Voilà, et puis ça, je renverrai sur un autre bouquin d'Aïdé Sébaran qui s'appelle, j'ai le nom du livre sur le bout de la langue, comme on dit, « Ceux qui passent », je crois, où il y a beaucoup de témoignages dans ce livre de gens qui passent, et notamment donc passer avec rien, mais quand on te vend un litre d'eau 100 $, si t'as pas les 100 $, t'es mort de soif. C'est des choses qui se produisaient dans le désert, notamment en Libye, et voilà.
Et que cette étape du désert, des rafles policières ou toute autre brutalité pendant l'année de leur voyage, à un moment elle ressort parce qu'ils sont dans Ceuta. Ils n'ont plus de but à atteindre parce qu'on les force à la latence, et que petit à petit, la nuit, les traumas remontent et ils sont vraiment dans un état difficile psychologiquement. Ils appellent ça leur trauma, ça boxe dans leur tête. Oui. C'est que l'ensemble de ce qu'ils ont vécu ressort par petite résurgence, et c'est vraiment très dur à gérer psychologiquement pour eux, parce que jusque-là, ils avaient un but qui faisait qu'ils pouvaient un petit peu transcender tous ces risques qu'ils prenaient. Et d'un coup, on les force à ne plus avoir de but. Et forcément, tout ça remonte. Et c'est difficile de s'en remettre.
Alors, je propose maintenant qu'on écoute la chanson, enfin c'est Nour hein, qui est somalien.
Oui, je peux peut-être l'introduire rapidement. Oui. Nour, c'est un très beau personnage qui est somalien et qui voulait être journaliste en Somalie et qui était fou amoureux d'une très jolie fille. Et un jour, elle est tombée enceinte et il s'est dit, pour que je réussisse à m'occuper de mon futur enfant, il faut que j'aille en Europe, que je trouve un moyen de réussir un petit peu, que j'ai quelque argent et que peut-être je puisse faire venir ma famille, parce qu'il vit à Mogadiscio, que la situation est terrible là-bas. Et il a décidé de partir, dès qu'il a appris qu'elle était enceinte, pour essayer de... sauver autant que possible sa famille. Et sur le chemin, il est allé désillusion en désillusion et il s'est mis à écrire des chansons en Somalie qui racontent à son peuple, à autant d'oreilles que possible, la difficulté du voyage et l'idée qu'il faut bien réfléchir avant de tenter un tel voyage parce que ça change un homme et qu'il a vécu plus de mauvaises que de bonnes choses. Et il a vraiment voulu transmettre par cette chanson son périple.
Voilà, et donc en plus pour écouter Nour, qui est lui aussi, quand il parle, hein, il parle en anglais, donc il y a les sous-titres, c'est un petit peu compliqué de le passer donc maintenant. Par contre, sa chanson est superbe. Donc on écoute la chanson de Nour.
Marki hore safar ke hai Somalan kaso bilawe marka Marki hore safar ke hai Somalan ka so bilawe marka Muda der maki ha ka so waregate Muda der maki ha ka so waregate Kenye ka so bokole Ani kenye ka so bokole Bille ila indu markei Mugdi arkan muruga mujia Muruga mujian Muruga mujian Ha 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 La 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 Maroka ni madi marka نعنا حيق وحروقها إنها مرو بداسي بحركا كوبي مي نفتيدا أن كوبي مي نفتي أن كوبي مي Bil'idha indu markay Mugdi arkan muruga mujiya Muruga mujiya Muruga mujiya Muruga mujiya
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et en streaming sur rfpp.net. Et nous parlons donc du film Ceuta, 12 prisons, et c'est Nour, un des personnages de ce film, qui chante, hein, c'est extrait de la bande originale du film.
Ouais, c'est une des scènes où Nour, il est rentré à la nage, ils sont beaucoup à venir en canot, Nour, lui, il est passé à la nage. Et il raconte là, il est face à l'endroit où il a plongé, il est face à la mer, et il raconte un petit peu la difficulté au Maroc et sa venue à la nage, et l'idée qu'il a pensé sur le moment y rester, qu'il ne pensait pas s'en sortir, et qu'il a été sauvé par une force, et qu'il est parvenu à arriver à Ceuta. Et donc ça s'inscrit voilà, dans la globalité de ce film, qui a vraiment pour but de proposer, de ressentir ce que c'est que la migration. C'est vrai qu'il faut parler des statistiques, des chiffres et de beaucoup de choses, mais là, il y avait cette idée à travers ce film de raconter ce que c'est qu'un personnage au milieu de son chemin migratoire. Et on est vraiment en immersion, sans aucun commentaire, sans aucune voix off. On est plongé avec eux dans cet espace un peu incertain entre l'avant, le parcours et l'après, la réussite ou l'échec. Et on perçoit avec eux leur quotidien, leur routine, leurs doutes, leurs angoisses terribles. Tout à l'heure, on a entendu Simon donc, qui racontait son parcours et qui disait qu'il avait des doutes la nuit parce qu'il entendait la police qui venait déporter, et ils vivent vraiment tous avec cette angoisse d'être du jour au lendemain déportés, et c'est une angoisse sourde qui est en eux, ils sont jamais vraiment tranquillisés, parce qu'à n'importe quel moment, ils savent qu'ils peuvent être appelés, et 24 heures plus tard, être envoyés, rien, les mains dans les poches, dans leur pays, avec cette idée de l'échec, c'est-à-dire de ne même pas revenir avec au moins un beau pantalon, ils sont tous très inquiets sur cette idée d'image qu'ils vont renvoyer, qui est terrible pour eux, et cette violence sourde de craindre en continu qu'on puisse immédiatement les déporter, elle est terrible pour eux.
Voilà. Et c'est Kouba ?
Bon, moi, franchement, je suis terrorisé suite à ces problèmes. Bon, je sens bien que je suis l'un des leurs. Moi, je pense que c'est suite à mal d'informations parce qu'ils ne sont pas informés au drame qui les attend et à tous les angoisses et tous les problèmes qui peuvent être face. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'essayer de rencontrer d'autres personnes qui ont, on peut dire, qui ont été l'un des chanceux d'atteindre l'Espagne et pourquoi pas d'y rester. Bon, parce que franchement, moi, je voudrais que vous fassiez cela. Donc, essayez d'atteindre des personnes qui ont pu réussir. Bon, ce n'est pas réussi par leur force, mais réussi par coup de chance, comme on l'a dit, comme je vous disais, par l'autrui. Donc, si ceci pourrait apporter leur contribution pour que ceux qui n'ont pas déjà bougé de chez eux puissent essayer de se replier, de rester au lieu d'aller jeter leur vie à la fenêtre comme ça.
Mais même pour eux, c'est difficile de pouvoir raconter, que ce soit pour ceux qui réussissent, qui arrivent
parce
en Espagne ou en France.
Parce que moi, je vois que c'est parce que la vérité, elle est cachée. Elle est toujours cachée. Donc, il y aura toujours des morts. Tout le temps, on va avoir cette envie de réussir. Bon, ça sent bien comme tout jeune Africain, surtout Afrique noire. Donc, la seule but qu'on a dans la tête, une fois en Europe, donc tu marches sur l'or. Donc, l'or est par terre, tu les ramasses. Et c'est ce qui est montré par ceux qui retournent, notamment ceux qui retournent en Afrique, ceux qui viennent, qui ont pu réussir un peu, qui ont pu rassembler un peu d'argent. Et qui sont retournés, qui vont montrer aux jeunes, qui vont les exciter. Bon, viens en Europe, tu trouveras tout ce que tu veux. Et tout le monde se lance, que ce soit sur la voie maritime. Bon, dans l'hasard comme ça, moi je vois qu'il faut essayer de sensibiliser. Parce que franchement, moi, la première semaine que j'ai été ici, j'ai été totalement déçu. Et je me disais pourquoi j'ai laissé tout pour venir ici. Et là, au moins, moi, je peux dire, je ne suis pas venu par cette voie, mais vraiment terrorisante, dramatique. Mais une fois ici, vraiment, il n'y a pas de mots à s'expliquer. On se dit, bon, franchement, ça ne va pas chez nous. Mais une fois ici aussi, c'est une autre étape de la vie.
Mais la vérité, elle n'est pas que cachée. Alors effectivement, il y a un vrai problème de communication, mais elle n'est pas que cachée, elle est aussi très dure à expliquer. Parce que quand on dit c'est la loterie,
oui,
chacun pense aussi que si c'est la loterie, il y a quand même quelqu'un qui gagne et que ce quelqu'un, ça peut être soi. Oui. Et comme les critères, c'est la loterie, que les critères d'obtention d'un droit, d'un asile,
oui,
d'un laissez-passer ou autre, ne sont pas explicables, on ne peut pas vraiment dire « ne viens pas parce qu'on est sûr que tu ne l'auras pas » puisque personne n'arrive vraiment à comprendre et donc à transmettre.
Comme ici, bon, il n'y a pas une explication. Bon, comme on l'a dit, c'est pas si tu te souviens des pays sûrs ou pas sûrs. Donc, il n'y a pas cela. Donc, tu peux venir aujourd'hui, toi, tu peux être les chanceux donc, d'avoir les droits donc, d'être appelé en Espagne. Bon, aller dans un autre centre de rétention. Bon, pourquoi pas aussi d'avoir la chance d'être libéré de la nature encore, comme sans papier.
En tout cas, ils sont beaucoup, au moins parmi nos personnages, à se poser des questions et à se dire peut-être que j'aurais pas dû. Peut-être que j'aurais dû rester.
Pour ce qui concerne l'information, moi je pense que c'est certes malheureux qu'il y a beaucoup de personnes qui retournent au pays et qui ne font pas un état réel des conditions de vie qui vivent ici en Europe et aussi du voyage. Mais je pense que c'est encore plus malheureux le fait qu'il n'y a pas une vraie information de qui est à la cause de toute cette condition, qui est à la cause de l'origine des morts aux frontières, des conditions très dures de traverser. Donc, les personnes qui et les États qui sont à l'origine de tout ça, donc c'est les États européens, les États membres, les gouvernements qui endurcissent de plus en plus les politiques d'immigration. Donc je pense que c'est encore plus malheureux qu'il n'y a pas d'information et de sensibilisation sur ces volets-là. Oui. Autre fait, sur effectivement les dangers de la route, et puis à chacun de choisir son futur, si partir ou pas. Mais je pense que d'abord, vraiment, le travail de sensibilisation doit être fait sous les effets néfastes des politiques européennes pour sensibiliser la population au moment du vote et dans tout moment des consciences et des prises de conscience.
Oui.
Mais ce qu'il y a, donc ça, on s'éloigne un tout petit peu du film, mais au niveau de la déception, c'est vrai, au niveau de l'information, quand tu vas dans certains endroits où on retient des gens qui passent, parce qu'à ce tas, c'est des gens qui passent et qui sont retenus, qui ne peuvent pas passer.
Oui.
On a des phénomènes qui sont très différents de ce tas, mais à Calais, où il y a des gens qui passent, qui veulent traverser une mer et qui ne peuvent pas la passer. Quand on voit, donc là j'ai parlé de Calais, que je connais un petit peu, on voit des gens qui arrivent pour la troisième fois à Calais, qui se sont fait expulser deux fois de Grande-Bretagne, et qui retournent pour la troisième fois, qui pour la troisième fois font ce voyage ô combien dangereux depuis l'Afghanistan jusqu'à la Grande-Bretagne, en passant par la frontière entre l'Afghanistan et la Turquie, en passant par la Turquie et la Grèce, en passant par la Grèce et l'Italie, oui. Et en passant par Calais et la Grande-Bretagne, qui sont, je veux dire, c'est aussi des voyages où on n'est pas sûr d'arriver vivant. Et c'est la troisième fois, j'ai rencontré un monsieur, c'était la troisième fois qu'il le faisait, parce qu'il s'était fait expulser de Grande-Bretagne.
Et c'est le cas aussi à Ceuta et Melilla, et il y a à peu près 1000 migrants à Ceuta. Il y en avait de nombreux qui étaient là en 2005, qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu en 2006, 2007, qui ont été renvoyés dans leur pays et qui après ont refait l'ensemble du parcours et ont retenté leur loterie, leur chance sur place, même en étant donc parfaitement en connaissance de cause de tout ce qui allait être leur périple, oui. Qui se sont dit bah, peut-être cette fois-ci ça va marcher.
Alors, comme notre émission est presque terminée et qu'au fond près du radiateur va pas tarder à arriver, oui. J'aimerais bien ce film.
Alors, ce film.
Où est-ce qu'on peut le voir? Quand on peut le voir? Comment on peut le voir? Parce que c'est bien si on dit on fait une émission, voilà, et donc ça, il arrive comme ça par la poste et on voilà. Peut le voir, c'est très bien.
Donc, mais nous, sinon... notre but, c'est vraiment de le montrer autant que possible et également de pouvoir discuter autour du film, donc d'avoir autant que possible des projections débat. Pour l'instant, on a deux dates calées à Paris. On a le jeudi 8 novembre, où on va être au Festival des droits humains organisé par Amnesty. Et au Saint-André-des-Arts, au cinéma Saint-André-des-Arts. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, on va projeter le film et débattre après. Ensuite, le samedi 17 novembre, nous allons le projeter dans le cadre du festival Frontières du visible à l'invisible, qui est organisé par Belleville en vue. Et là, on va le projeter au cinéma Latina. Ça va être à 20h également. Et il va y avoir après un grand débat autour. Pour la suite, nous, on veut vraiment... essayer de faire une petite tournée, que ce film puisse avoir une vie. Et on commence maintenant à démarcher un petit peu des salles de cinéma, des associations partenaires, tout type d'organismes ou autres, qui pourraient, dans une certaine mesure, organiser des projections, nous aider à amener à le débat, à faire que des gens puissent voir ce film. Et là, on commence, pour janvier-février, à démarcher un petit peu. C'est difficile, les salles de cinéma ne sont pas très réactives à l'idée du documentaire. En l'occurrence, en plus, un documentaire en immersion, sans explication tout le temps, sans tenir le spectateur par la main. Et donc, on commence à démarcher des cinémas et on est ouvert à tout renvoi d'ascenseur ou à toute idée d'association, de diffusion ou de cinéma.
En tout cas, c'est un film que je recommande. Donc, si vous voulez organiser une projection, il suffit d'écrire à par exemple, singulier au pluriel, singulier avec un S, hein, au pluriel, puisque c'est... donc singulier au pluriel dans un seul mot, @gmail.com, et je transmettrai à Zaradoc, qui est la maison de production, à moins d'écrire directement à Zaradoc.
Les deux sont possibles, en tout cas, tout retour sera bien pris.
Voilà, et ben maintenant, donc, je vois que les au fond près du radiateur s'installent dans le studio, oui. Donc on va être obligé de conclure notre émission, même plus que de la conclure, hein, mais de laisser la place. Donc, eh bien, merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous.
Peut-être un petit mot pour conclure, si tu veux, rapidement.
Voilà, juste une chose. En ces moments, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces enclaves. Et rester attentif, ne jamais oublier que ce qui se passe au port des frontières de l'Europe, c'est quelque chose qui se passe proche de nous. Et donc, il faut vraiment s'intéresser.
Voilà, et puis moi, je voulais dire un petit mot, mais ça, je n'aurai pas le temps, sur ce qui se passe à Calais aujourd'hui. Mais je le dirai demain dans l'émission singulier au pluriel, RESF à la même heure.
Oui. De 17h à 18h à 19h.
Voilà. 18h-19h demain. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jonathan d'être venu.
C'était un plaisir.
Merci Sarah. Merci Sekouba. Merci Renaud à la technique. Et peut-être si on a le temps, on peut écouter un tout petit peu de musique, hein, puisque ça se passe en... Non, on n'écoutera pas de musique. Eh bien, ça ne fait rien. Je la passerai demain. Voilà. Et donc, je vous dis à demain pour l'émission RESF.
Merci à tout le monde.